Pour rejoindre Tu aimes le midi, 670-9330. studio@fm93.com ou par texto au 25-226. La voix est libre. Au FM 93, voici
Salut mon Luc.
Salut Eric, ça va?
Oui, très bien. Écoute, je veux commencer par te parler de Michael Bloomberg qui est sur les lèvres de à peu près tout le monde présentement aux États-Unis et sur à peu près tous les réseaux de télévision. Quand c'est pas dans les émissions, c'est les publicités parce que le richissime américain fait officiellement son entrée dans la course à la présidence américaine aujourd'hui.
Ouais, ce soir, il va participer au débat de mon Nevada à la veille de la primaire des Nevada. Écoute, Eric, j'étais au moment là où on est en train de finir la lecture d'un article dans le Wall Street Journal à propos d'une des tactiques de communication utilisées par Michael Bloomberg. Il paye 2 500 $ par mois à des milliers de personnes simplement pour qu'elles relaient à leur liste de contacts Facebook ou autre tout ce qui est positif à l'égard de Bloomberg. Alors, les gens n'ont pas une grosse job, hein, ils travaillent une quinzaine d'heures par semaine à taponner avec ça. Puis, ça donne une idée de la machine de guerre, littéralement, que Bloomberg a mise au point. Je lisais aussi, en fin de semaine, un article qui décrivait le type d'individu qu'il était, sa façon de fonctionner et comment il se prépare, justement, ou comment il est convaincu qu'il peut aller chercher la Maison-Blanche.
Okay.
On le décrit comme un être assez froid, très, très data-driven. Alors, comment on dirait ça en français? C'est quelqu'un qui...
Qui tripe ses données, ses chiffres?
Ses chiffres, constamment. Et c'est quelqu'un qui va aller à n'importe quelle limite pour aller chercher la Maison-Blanche. Alors, le gars est parti, disons, au mois de décembre, là, il était à 1 ou 2 % dans les sondages.
Oui.
3. Là, ça dépend des sondages. Il est en deuxième place. Il n'est pas loin de la première. Ça
dépend. Il va à 19 % en deuxième place, moi, aujourd'hui. Puis c'est Bernie Sanders là, qui est en avant à 41. Ça, c'est ce que j'ai vu. Je pense que c'était à CNN. J'ai vu ça à ma tête.
Ouais, c'est le plus récent, celui-là. Alors, Bloomberg, écoute, sa fortune personnelle est estimée à 70 milliards de dollars.
Fait que Trump, il est pauvre comparé à lui, là.
Ouais, ben Trump a toujours prétendu qu'il vaut 10 milliards, ce qui est, à mon avis, complètement faux, là. Il n'y a rien dans son portefeuille ou quoi que ce soit qui pourrait l'avoir mené à avoir 10 milliards de dollars. Mais même si c'était 10...
C'est une fraction de l'autre. Là.
Ça serait un septième de l'autre.
Il a fait fortune comment, Bloomberg?
Bloomberg, en développant, d'abord, un avocat de formation, mais il a développé les services financiers de Bloomberg. Il s'est rendu compte, d'abord, il agissait comme avocat pour des firmes de courtage mobilière.
Oui.
Et il s'est rendu compte qu'un des drames de ce secteur de l'économie, c'est qu'il n'y avait pas assez d'informations crédibles, instantanément disponibles, au moment où des décisions ultra rapides doivent être prises.
Oui.
Alors, il a développé un système qui est maintenant mondial où, je sais pas si tu as déjà rencontré, Éric, des journalistes de Bloomberg ou faites affaire avec eux.
Ben oui.
Ils ont des directives qu'on voit pas dans le journalisme. Par exemple, à Bloomberg, tu peux pas parler d'une source anonyme. Même si c'est le cas, tu peux pas en parler. Je veux dire, il faut que tout ce que tu écris dans Bloomberg, la règle soit pour les journalistes, soit totalement vrai. Parce qu'ils se tournent de bord... Cette information-là est exclusive à ceux qui payent pour l'avoir. Et crois-moi, ils payent des sommes gigantesques. Quand je travaillais au cabinet de relations publiques nationales à la fin des années 90, ça avait été une grosse affaire parce qu'on avait un groupe qui faisait du support pour des firmes dans le domaine de la finance. Et on avait acheté Bloomberg. On avait acheté le mensuel de Bloomberg. Ça venait avec une pièce d'équipement. Là. Ça coûtait les yeux de la tête. Je m'en rappelle plus, là, mais c'était extrêmement cher. Alors,
système... C'est souvent des chiffres, hein, leurs nouvelles, eux autres. Ils vont souvent donner des chiffres aussi.
Oui. C'est très, très, très factuel.
C'est
vraiment conçu pour des gestionnaires de portefeuille qui surveillent constamment le Bloomberg, comme ils disent, hop, il arrive quelque chose. On est les premiers à le savoir, puis on peut se fier. Tandis qu'autrefois, avant qu'existe le système Bloomberg, tu pouvais jamais complètement te fier. Tu y allais beaucoup par intuition.
C'est un anti-fake news.
C'est un anti-fake news, ça, tu peux être sûr. Et c'est aussi un gars extrêmement féroce. Hein? Puis en plus, il est en train de se faire attaquer. Il fallait s'y attendre.
Eh boy, mais pas à peu près. Écoute, ils sont dans le même parti. Là. Comment est-ce qu'ils vont faire pour survivre? Aujourd'hui, j'ai vu Elizabeth Warren. T'as-tu vu qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle dit qu'elle compare à Trump. Elle dit qu'il est comme Trump. C'est un milliardaire égocentrique, centré sur lui-même, qui veut faire sa promotion.
Ouais, mais sais-tu le problème? C'est qu'elle n'a pas complètement tort. Et par ailleurs, évidemment, c'est drôle pour nous qui vivons au Canada, au Québec, cette idée que quelqu'un peut se lever un matin et dire « je vais aller acheter la Maison-Blanche ». Parce que c'est ça qu'il fait.
C'est ça qu'il fait.
Les lois ici permettent pas à quelqu'un de prendre sa fortune personnelle puis de l'investir dans sa carrière politique. Tu sais, regarde le cas de Pierre-Carl Péladeau, là, quand à un moment donné, il a été accusé par le directeur général des élections d'avoir fait un remboursement illégal ou je sais pas quoi. Le gars, il quitte la politique dans les circonstances qu'on sait. Il a une dette accumulée due à sa campagne au leadership.
Il n'a pas le droit de la payer, c'est vrai.
Il n'a pas le droit de la payer. Alors lui, il était accusé parce qu'à un moment donné, il s'est retrouvé devant le choix. Je pense qu'il devait quelque chose comme 290 000 ou quelque affaire du genre. Il a pris son carnet de chèque, il a fait un chèque, bang, il était accusé.
Alors, on s'entend que Pierre-Carl Péladeau, là, tu sais, j'enlève rien à sa fortune, mais c'est rien comparé à Bloomberg, là.
Ah, mais non, mais évidemment.
On n'est pas dans les mêmes ligues, là.
On n'est pas dans les mêmes ligues. Mais l'idée que quelqu'un, là, dise de moi, là, je la veux tellement, la Maison-Blanche, je vais l'acheter. Et ça, c'est assez renversant parce que c'est pas tout à fait ce que Trump a fait, hein. En 2016, Trump avait quand même des appuis financiers. Ensuite, il n'a pas déployé une machine aussi gigantesque, une machine de guerre aussi incroyable que celle déployée par
Trump. Mais sa base, c'était pas du monde payé en passant. Là. C'est son message à Donald Trump, puis c'est son wedge, là. C'est ses enjeux qui divisaient la population, ouais. Qui l'a fait monter. Là. Il a provoqué des scandales, puis il les a gérés. Là.
Sauf que Bloomberg, lui, il se dit...
C'est pas ça, le Bloomberg.
En gros, le message de Bloomberg, là, je vais le caricaturer, mais c'est un peu ça. Vous aimez ça, des milliardaires? J'en suis un vrai... Puis en plus, je suis pas aussi colon que l'autre. Ça vous dérangerait-tu d'avoir un président qui est moins colon? Tu sais, c'est ça qui...
C'est un peu ça son message. Mais il y a pas dans... Mais c'est quoi sa vision à Bloomberg? Parce qu'on sait que c'est un ancien républicain qui est rendu démocrate. Mais y a-tu présenté des idées où il fait juste des pubs avec qui achète du monde pour travailler pour lui?
Je pense qu'il fait juste des pubs puis achète du monde pour travailler pour lui. Maintenant, ce qu'on connaît de ses idées politiques, on l'a vu à l'époque où il a fait 3 mandats comme maire de New York. C'est un gars qui s'est positionné très à gauche sur les questions sociales, dans le contexte américain, entendons-nous. Donc, les questions concernant l'avortement, les armes à feu, tout ça, il est positionné très à gauche. Par ailleurs, sur le plan économique, c'est un gars, évidemment, qui favorise l'entrepreneuriat. Le contraire serait un peu étonnant.
Avec les milliards que ça y a rapporté, j'espère qu'il est pour le libre-échange, la libre circulation des biens.
Eh, monsieur! Mais pour le reste, t'as raison, Éric, c'est très flou. Et le message, il est très calculé, là. C'est très calculé, ça. Il y a beaucoup de monde, j'en connais, des Américains qui m'ont dit ça, là. S'il était moins colon, on aime ce qu'il fait, parlant de Trump.
Ouais.
S'il était moins habitant, tu sais, s'il faisait moins de grossièreté puis de vulgarité qui nous font passer pour une gang de clowns dans le monde entier, on est pour ses politiques. Bloomberg dit, ben là, regardez, vous l'avez, votre homme, là? Je suis pas colon. Me présente bien. Ça a l'air qu'en privé, il a dit des affaires qui étaient moins drôles, là. Ils sont sortis dans le Washington Post dimanche, là.
Ça commence, là.
Ouais, ben oui, ça commence. Et ça fait trouver ça drôle.
Ils sont en train d'aiguiser le couteau, là.
Oui, il y en a une de ces affaires qui a été rapportée parce qu'il avait dit ça devant à peu près 250-300 vendeurs, les gens de la force de vente de Bloomberg. Et je vais essayer de résumer en trouvant des mots acceptables pour les oreilles chastes. Il a dit à son équipe de vente, un client, c'est comme une femme. Tu lui demandes, veux-tu baiser? Il y a des chances qu'il va dire non, mais il y a des chances qu'elle va dire oui.
mais ça, c'est pas un scandale, là. Ça peut être une chose malhabile, mais c'est pas...
Non, c'est pas la fin du monde, mais ils vont y en sortir. Ça vient un peu nuire à son image du gars qui a de la classe.
Mais de toute façon, Trump, il a déjà commencé... Lui, il le trouve petit, hein, Donald Trump.
Ben, il l'appelle Mini-Mike, oui.
Mini-Mike, parce qu'il est pas haut.
Trump, il dit qu'il mesure 5 pieds et 4, alors que la réalité, c'est qu'il mesure 5 pieds et 7, ce qui n'est pas très grand, effectivement. Mais l'autre, il l'a averti aussi. Il est intervenu de façon très, très dure il y a à peu près 2 semaines contre Trump. Il a dit de Donald Trump, « Donald et moi connaissons essentiellement les mêmes personnes originaires de New York et nous fréquentons les mêmes personnes et nous avons joué au golf ensemble. Je peux vous dire une chose, Donald. » dans ton dos, les gens disent que t'es un gros clown ignorant. Alors, moi qui ne suis pas américain, qui n'ai pas, je n'ai pas à me préoccuper de ce que ça va donner en réalité, quel bon spectacle!
Ouais, mais attends, il n'est pas choisi, là. Présentement, c'est Bernie Sanders qui est encore, qui a la pole position dans la course à l'investiture démocrate. Puis j'ai l'impression que les tirs groupés d'à peu près tous les adversaires contre Bloomberg, j'ai l'impression que Elizabeth Warren, l'avoir allée aujourd'hui, ça ne me surprendrait pas que c'est à sortir de la course. Ça va aller donner tous ses votes à Bernie Sanders, elle-là, là.
Ça veut pas dire que les votes vont suivre, là. Ça, c'est. On connaît ça.
Mais ce parti-là, comment ils vont faire pour se recoller? Parce que là, c'est en train d'éclater bien raide, là. Sanders puis Elizabeth Warren pourront pas appuyer Bloomberg si jamais il est choisi.
Oui, mais d'un autre côté, on dirait que le Parti démocrate est passé à côté de l'histoire politique, quoi. Je veux dire, Trump, avec tous ses défauts puis tout le mépris que j'ai pour lui, il a piffé quelque chose dans l'air puis il l'a exploité au maximum, une sorte de colère sourde. Oui. Les cols bleus qui étaient autrefois la clientèle du Parti démocrate reconnaissaient plus ce parti-là.
La grogne avec... tranquille de l'intérieur des États-Unis.
Là. Voilà, c'est ça que Trump a saisi, c'est ça qu'il a exploité au maximum. Les démocrates n'ont pas semblé s'en rendre compte, puis la façon dont se déroulait la campagne pour l'investiture à l'heure actuelle tendait à démontrer qu'ils n'ont pas compris encore. Ils n'ont pas compris encore que les baptêmes de niaisage, là, tu sais, de transgenre, ceci, puis des toilettes, puis des pâtés, ils sont écœurés d'entendre ce langage-là, ils peuvent plus n'entendre parler. Et en même temps, les Américains croient pas fondamentalement que Sanders est capable de livrer ce qu'il promet. Je veux dire, il fait des promesses à coups de milliers de milliards de dollars.
Mais sauf que, Luc, attends une minute, le Bloomberg, là, c'est un homme blanc d'au-dessus de 70 ans, hétérosexuel de New York, milliardaire. C'est Donald Trump. Je veux dire, pour un démocrate de gauche, là, activiste, là,
Ocasio-Cortez.
Pour toute cette gang-là, là, pour eux, c'est Donald Trump, là, Bloomberg. Là.
Mais oublie pas qu'ils ont quelque chose en commun, les démocrates, et c'est qu'ils veulent battre Trump.
Oui, mais au point d'en remettre un autre pareil comme Trump dans leur tête.
Ben, dans leur tête, il n'est pas comme Trump, parce qu'il n'est pas colon.
Okay,
tu sais, c'est gênant d'avoir un président qui fait fermer la gueule d'une ancienne star porno parce qu'il voulait la baiser. Ça finit par être tannant, ces niaiseries-là. Okay, c'est pardon qu'il vient de donner hier. C'est épouvantable. Ça, c'est comme... C'est... On est en, tu sais, ce pays-là, le pays des États-Unis, que j'ai beaucoup admiré, ce pays-là, historiquement, ça s'est bâti sur un certain idéalisme et sur une espèce de ralliement autour de la Constitution et de ses grands concepts.
Oui.
Il est en train de les sacrer tout à la poubelle. Il va, tu sais, Bogdanovich, le gars de Chicago, là.
Oui.
L'ancien gouverneur qui a essayé de vendre le siège vacant de Barack Obama, là. Pourquoi qu'il l'a pardonné, ce gars-là? C'était pas, tu peux pas être plus corrompu que ça. Il l'avait sur un tape. Il disait, combien t'es prêt à donner, moi, te nommer sénateur? Parce que là-bas, quand le poste devient vacant, ça varie d'état en état, mais dans le cas de l'État de l'Illinois, quand le siège devient vacant, c'est le gouverneur qui nomme quelqu'un pour qu'il termine le mandat.
Il l'a vendu.
Il l'a vendu, lui. Puis après ça, Michael Milken, là, les gens se souviennent-tu du film Bonfire of the Vanities, là, le bûcher des vanités? C'était une époque de fou. L'époque de Michael Milken, là, c'était une époque de fraude sur des échelles absolument folles. Après ça, quel autre...
Mais attends une minute, là. T'es-tu en train de me dire que tu penses vraiment que Bloomberg peut battre Trump, toi?
Moi, je pense que oui.
Ah oui? Et moi, je pense...
Ben, je dirais pas ça. Attention. Je voudrais être plus clair.
OK, vas-y.
Je ne gagerais pas une scène présentement qui va le battre, mais si tu me poses la question comme tu l'as formulé,
oui.
Penses-tu qu'il peut le battre? Je répondrais, le seul qui peut le battre, c'est lui.
C'est lui, plus que Sanders.
Plus que... Ah, nettement. Nettement plus que Sanders. Oublie pas que les Américains, comme peuple, valorisent beaucoup les gens qui ont fait de l'argent. OK?
Oui.
Aux États-Unis, c'est beaucoup plus qu'ici.
Ici, c'est le contraire.
Ici, si c'est le contraire. Faut que tu caches.
C'est ça,
ouais.
C'est sûr que quand tu as trop d'argent, là, au Québec, là, c'est pas bien vu, là.
Pour un Américain, là, dire qu'un des leurs a fait 70 milliards et disait, monsieur, qu'on le dit, il est admirable, ce gars-là.
Ici, il aurait dit, y a-tu fait crever du monde, puis y a-tu fait souffrir?
Ouais, c'est ça.
Puis y a-tu été épouvantable?
Puis dans un, y a-tu fait mal à un syndicat en quelque part?
C'est sûr.
Y aurait-tu pilé sur les orteils des employés qui voulaient pas travailler?
Des lobbies de quelque sorte? Y aurait-tu pollué avec son entreprise quelque part?
C'est ça.
Qu'il y a du de l'argent offshore qui aurait pu sauver.
Ah, c'est ça. Il y a-tu fait des transactions qui ont passé par les Bermudes?
On les connaît-tu, nos gauchistes?
Monsieur, écoute.
Bon, là, avant de te laisser, Luc, je peux pas aujourd'hui te parler sans t'a demandé s'il faut utiliser la force pour libérer les voix au Canada, parce que c'est sur les lèvres de tout le monde. Même notre premier ministre François Legault est sorti pour planter un peu Justin Trudeau à Ottawa. Je sais pas qu'est-ce que ça va prendre, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire pour remettre le train sur les rails?
La question, c'est qu'est-ce qu'il va falloir faire pour remettre le train sur les rails, ouais, ou est-ce qu'on doit utiliser la force?
Bien, les deux, là. Faut-tu utiliser la force pour les remettre sur les rails?
Moi, je vais répondre à la question de la force de façon suivante. Si jamais on décide d'avoir recours à la force, on est mieux d'être extraordinairement bien préparé, parce que le moindre drame va être épouvantable. Maintenant, il va falloir que ça se règle. Et ce que je n'accepte pas de l'intervention de Trudeau hier, c'est qu'à part de faire du prêchi-prêcha, de nous faire tous la morale, ce qui me tape sur les nerfs de la part des politiciens, de nous expliquer comment on s'aime les uns les autres, puis toute l'affaire, j'aurais aimé ça qu'ils nous disent, garde, je donne 72 heures de négociation, ou quelque chose du genre.
Qu'ils mettent un ultimatum.
Qu'ils mettent un ultimatum sur la table. Il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites. Ça n'a pas de bon sens.
D'être patient.
Ben oui, mais on est patient, on n'est plus patient, on n'est plus capable de l'endurer. Tu sais, je veux dire, moi, je ne sais pas. Écoute, la solution, d'abord, ce sont des dossiers très complexes, tu le sais. Tu le sais. Mais maintenant, la solution, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'aimerais ça avoir un premier ministre qui est entouré des meilleurs dans le domaine, qui m'arrive avec sa solution, pas avec du prêchi-prêcha. Puis Andrew Scheer, je te parlerai pas parce que t'as pas été fin.
Ah oui, parle juste aux autres chefs de parti. J'ai jamais vu ça. C'est donc bien niaiseux, ça.
Ah, c'est niaiseux, c'est niaiseux. Ça a pas de bon sens. Fait que moi, hier, à 11h, j'étais devant mon écran, tu sais. C'est comme une adresse à la nation. Mais regardez ça. Puis je l'écoutais, je dis, la viande s'en vient, là. Il va y avoir de la viande autour de l'os. Non. Rien! Rien!
Comme dirait Andrew Scheer, pour une fois qu'Andrew Scheer, il était bon, il a pas été bon depuis qu'il est là, mais là, hier, je l'ai trouvé pas pire. Il a dit, c'est une salade de mots.
Ben oui.
La viande, t'as cherché encore, là.
Puis François Blanchet a dit, me semble que quand on convoque la Chambre pour faire une déclaration ministérielle, on devrait être sûr qu'on a quelque chose à dire.
Ça n'a pas de sens.
Ça n'a aucun sens. Je pense que par son intervention, il a exacerbé les choses. Oui. C'est pire!
C'est pire aujourd'hui.
Parce que les gens ont eu la même réaction que moi. Écoute, je suis un Québécois comme les autres. Là, je suis assis devant ma télé. Les gens, ils regardent ça le soir ou dans le jour, peu importe. Ils regardent ça, ils disent, ça y est, ils rient de nous autres. Ils rient en train de rire de nous autres.
C'est le feeling qu'on a tous eu hier. Luc, sur ça, je vais te laisser. J'espère que quand on va se reparler la semaine prochaine, la crise va être réglée, mais j'ai peur que ça ne soit pas le cas, malheureusement.
Alors, si c'est le cas, je te promets qu'on va parler juste de ça.
Ça, c'est sûr. Merci, Luc.
Salut, bye-bye.